Bonjour Jean-François Froger.
Bonjour Pierrick.
Nous nous retrouvons toujours dans notre exploration du récit de la Genèse, du récit de la création, qui est là encore une fois pour faire de l'homme, que l'homme entre dans cette capacité à connaître ce Dieu qui lui parle. Je résume simplement. Donc nous avons vu les quatre premiers jours, et puis particulièrement que la nature humaine, donc ça c'est une découverte du quatrième jour, comportait une capacité au rituel et au symbole. Donc je vous propose que nous passions au cinquième jour,
oui,
en écoutant peut-être le récit que nous propose le livre de la Genèse. Dieu dit « Que les eaux grouillent de bestioles vivantes et que l'oiseau vole au-dessus de la terre face au firmament du ciel. Dieu créa les grands monstres marins, tous les êtres vivants et remuants selon leur espèce, dont grouillèrent les eaux. Et tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds et prolifiques, remplissez les eaux dans les mers et que l'oiseau prolifère sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. »
Voilà, nous arrivons presque au but. Il y a six étapes. Donc, en cette étape du cinquième jour, nous voyons une chose nouvelle, à savoir l'apparition d'âmes vivantes, ce que le traducteur a dit des êtres vivants. Mais en hébreu, c'est beaucoup plus précis, c'est nefesh raya. Alors pourquoi c'est important de l'entendre au moins une fois dans sa vie en hébreu? Parce que âme vivante, alors ça va désigner effectivement tous les vivants. Mais tous les vivants, on a vu que les végétaux étaient vivants. Eh bien, les végétaux ne sont pas des nefesh raya. Il n'y a pas de souffle, il n'y a pas d'âme. Quoique, par exemple, dans le traité de l'âme d'Aristote, qui sera repris par saint Thomas d'Aquin, on parle de l'âme végétale. Alors évidemment, c'est une vue tout à fait différente dans la philosophie grecque et dans la Bible. Il y a des points de rapprochement, bien sûr. Alors nous, on explique les cinq jours. Mais nous avons en arrière-fond que des gens peuvent savoir un peu ce qu'on raconte chez Aristote et saint Thomas, qui est plus ou moins passé aussi dans la culture commune. Donc nous avons une petite difficulté de vocabulaire, déjà, d'emblée. Il faut le savoir, sinon on fait contresens sur ce que ça signifie. Donc ici, on va essayer de voir ce que c'est qu'une âme vivante. Nefesh raya. Et il y aura un autre mot, le sixième jour, je le dis tout de suite, qui sera nishmat raim, qui veut dire souffle vivant aussi, de la vie. Alors évidemment ça disparaît plus ou moins dans les traductions. Et vous comprenez bien que ça a un rapport, parce que la neshama et le nefesh, c'est presque la même chose. Et raya, ça veut dire la vie. Et Chaim, c'est la vie, mais au pluriel. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Je signale simplement la petite difficulté de vocabulaire pour qu'on ne se trompe pas, il y a des choses à expliquer. Et donc, la grande nouveauté du cinquième jour, c'est l'apparition de l'âme. Et ici, évidemment, puisqu'il s'agit des poissons et des oiseaux, et de ce qu'ils figurent, parce que maintenant, le quatrième jour nous a initié en disant attention, ce que vous voyez, ça doit devenir des signes. Il n'y a pas que les cieux, il n'y a pas que le soleil et la lune qui servent au calendrier. Maintenant, les poissons et les oiseaux, ça va servir à quoi? Bien sûr que tout le monde sait qu'il y a des poissons dans la mer et des oiseaux dans le ciel. Il n'y a pas besoin d'une révélation pour nous l'apprendre.
On peut même s'étonner qu'il n'y ait que ces deux catégories animales et non les autres qui, elles, apparaîtront au sixième jour.
Voilà. Et les animaux, ce que nous appelons les animaux terrestres, tous est, apprivoisable ou non, donc les bêtes sauvages ou les bêtes apprivoisées.
Domestiquées,
on va voir. Domestiquées, ça veut dire qu'elles peuvent rentrer dans la maison de l'homme, quelque part. Hein, ou dans sa ferme. Bon. Les autres restent à l'extérieur. Alors ça, c'est autre chose, on le verra le sixième jour. Donc ici, il y a quelque chose de spécifique. Et si on se souvient bien des étapes antérieures, il faut absolument mémoriser tout. Il faut capitaliser. On voit que le cinquième jour est en corrélation étroite avec le deuxième jour. D'ailleurs, si on a en tête que c'est un cycle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on sait que 1 et 4 vont ensemble, on l'a vu avec la lumière et ténèbres, le jour et la nuit, mais on sait que 2 et 5 vont ensemble. La séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas par l'étendue des cieux, Rakia, vient évidemment avec, en consonance avec le cinquième jour. Ce n'est pas pour répéter la même chose, là aussi. C'est pour autre chose. Et on voit très bien que le troisième jour, avec la création du sec, la terre, et puis la végétation et les arbres en particulier, ça va avoir à faire avec le sixième jour où l'homme va paraître. Et on sait qu'il va être mis dans un jardin planté d'arbres. Ça sera dans le deuxième récit, mais qui est le zoom sur le sixième jour. N'anticipant pas trop, hein, on y arrivera là, dans une émission prochaine. Pour l'instant, il nous faut prendre conscience donc de la ressemblance et de la différence entre le cinquième et le deuxième jour. Le deuxième jour, donc on se le rappelle rapidement, on avait vu la différence entre la perception et l'objet perçu. Et quand on n'arrive pas à faire cette différence, on est dans la confusion mentale. D'où le retour au deuxième jour avec le déluge qu'on avait traité en son temps. Pourquoi ? Parce que le déluge renoie tout d'eau, les eaux descendent du ciel et montent de la terre, si on connaît le récit. Donc en fait, on efface et on recommence. Pourquoi on efface et on recommence quand on a raté ?
Ça veut dire qu'il y a probablement une erreur au cinquième jour pour que nous retournions au deuxième. Enfin, vous nous l'expliquerez peut-être.
Il y a des erreurs. Alors évidemment, si on retourne au deuxième jour, c'est que l'erreur qui va se produire exige qu'on refasse quelque chose à cette étape-là pour pouvoir refaire les autres étapes correctement. Hein? Donc nous supposons que le deuxième jour a été bien franchi, le troisième, le quatrième, et nous avons le cinquième. Et là, nous voyons quelque chose de tout à fait nouveau qui n'était pas justement chez les végétaux, c'est la notion même d'âme vivante. Alors, qu'est-ce que c'est que cette âme ? C'est une difficulté de plus à notre époque, parce qu'en gros, on ne parle plus d'âme. Et on pense que ce vocabulaire est réduit à la religion. Bien sûr, dans la religion, on parle de l'âme. Non, Aristote, il parle de l'âme, c'est au IVe siècle avant Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'il lui prenait ? Voir qu'il était religieux dans sa religion à lui, grecque. Mais enfin, quand même, non. La notion d'âme, on l'a encore en filigrane dans le vocabulaire contemporain, parce que quand nous avons un spécialiste qui s'appelle un psychologue, si on sait ce que ça veut dire, psyché, en grec, c'est l'âme. Et logos, c'est le discours. Enfin, donc, c'est la science de l'âme. Donc un psychologue devrait avoir la science de l'âme. Or, en fait, pour qu'il n'y ait pas de contresens, dans la psychologie contemporaine, qui est une science utile et nécessaire, en fait, on ne parle pas de l'âme. On parle des comportements psychiques, des comportements de l'âme. Et on va voir à ce qu'ils soient à peu près harmonieux pour que les gens ne souffrent pas trop. Parce que le grand axiome, c'est ne pas trop souffrir. Si on souffre trop, on est malade, il faut se soigner, et ça fait souffrir les voisins, donc on enferme les fous, etc. Voilà. Parce que la maladie psychique, elle est bénigne chez la plupart des gens, parce que ça va pas bien, je déprime un peu, je suis triste. C'est être malade, tout ça. Hein. L'homme normal, il est joyeux. Est content de l'existence. Et toute la méchanceté du monde n'abolit pas la beauté des fleurs, il le sait. Donc il dit, bon, il y a des méchants, ça c'est vrai, mais les fleurs sont belles. Hein? Donc il reste joyeux. Alors, en fait, il est en bonne santé. Voilà. Et quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, il déprime, effectivement. Hein. Et avec mille raisons, il va se faire un cinéma intérieur effroyable. Et il y a une chose qu'il faudrait qu'il sache, c'est qu'il a une âme. Et qu'est-ce que c'est que l'âme ? C'est tout le problème. Alors, nous commençons d'abord par définir, évidemment, une instance capitale pour l'homme, puisqu'il s'agit toujours de faire de l'homme, c'est ce qu'on appelle, chez Aristote et chez saint Thomas, l'âme animale, qu'on peut observer effectivement chez les animaux. Mais chez les poissons et chez les oiseaux, c'est plutôt difficile. Les poissons, parce qu'on les voit pas, ils sont au fond de l'eau. Et quand on les voit, ils sont morts, et ils n'ont plus d'âme, ils n'ont plus de souffle. Hein. Parce qu'un poisson, malgré tout ce qu'on raconte, ça respire.
Et c'est ce que j'allais vous dire, la différence avec les végétaux, c'est que les animaux, comme les êtres humains, respirent. Il y a une respiration intérieure.
Un les végétaux intérieur. Aussi, entre nous, ça respire. Alors, hein, parce qu'il y a un échange. Vous voyez, un arbre, ça excrète de l'oxygène et ça absorbe du CO2. C'est bien, c'est strictement l'inverse de nous. Hein. Donc ils nous rendent service. Et nous, on leur rend service aussi, d'ailleurs. Hein. Parce que ce dont ils ont besoin... C'est ce que nous rejetons, et réciproquement. Alors, si la respiration, c'est un échange gazeux, les végétaux ont aussi une respiration. Mais on ne dira pas que c'est une âme. Alors, pourquoi ? Hein ? Parce que, lié à l'idée de Nefesh Raya, alors il faut aller voir un peu dans le contexte, là, il y a l'idée de souffle vivant. Alors, effectivement, il n'y a pas d'organe du souffle chez les végétaux. Chez les poissons, c'est quand même délicat, là aussi, hein, ben, par les branchies, mais... Alors, Nefesh Raya, ce souffle vivant, ça va signifier la vie. Mais vous me direz, mais les végétaux, ils étaient déjà vivants. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Vous voyez ? Alors, il faut examiner les images concrètes. Pourquoi ? Parce que Nefesh, l'âme donc, c'est d'abord un souffle, mais c'est ce que va symboliser le souffle qui nous est dit. Bien sûr, ce que nous voyons, nous, ce que nous sentons, c'est le souffle qui passe par la gorge, qui est la respiration. Et on sait très bien que sans ce souffle, on mourrait tout de suite. Hein ? C'est pas long. Il y a ce rythme. Le souffle, il est rythmé, il va être sur un cycle. Alors, ça nous rappelle des choses. C'est un cycle binaire, respiration, inspiration, expiration. Bon. Du premier moment de la vie, pour nous, jusqu'au dernier. D'ailleurs, on dit rendre l'âme quand on meurt. C'est-à-dire rendre le souffle, le dernier souffle. Vous voyez ? Ça s'arrête. Oui, mais c'est une image. Ce qui s'arrête, c'est le mécanisme charnel. Mais qu'est-ce que signifie ce mécanisme charnel, ce souffle ? Voilà le problème. Alors, Nefesh Raya, souffle de vie. Il faut aller le voir pour comprendre. Il faut prendre quelques exemples dans son contexte biblique. Puisque ça se sépare quand même pas mal de notre perception immédiate dans notre culture. Et après, on choisira. On dira, tiens, ce qui était raconté dans la Bible, c'était pas idiot. On peut se le dire à l'occasion. Et alors, ça enrichit en tout cas notre point de vue. Eh bien, je vous lis un passage dans le Deutéronome. Garde-toi bien, alors, quand tu seras rentré dans le pays donné, dans le Deutéronome, d'offrir des holocaustes en n'importe quel lieu que tu verras. Donc, il ne faut pas faire le rituel n'importe où. Hein. Mais c'est au lieu, Bamakom, que aura choisi Dieu en l'une de tes tribus, que tu offriras les holocaustes. Alors, ce sera dans la tribu de Juda, à Jérusalem, comme chacun sait. Et c'est là que tu feras tout ce que je commande. Néanmoins, suivant tout désir de ton âme, tu pourras sacrifier et manger de la chair comme bénédiction que t'a donnée Yod et Vavé, ton Dieu, dans toutes tes portes, donc dans toutes tes villes. L'impur et le pur en mangeront, c'est-à-dire tout le monde, comme on mange de la gazelle et du cerf. Il n'y a que le sang que vous ne mangerez pas. Tu le répandras sur la terre comme l'eau. Donc il y a un interdit sur le sang. Pourquoi ? Parce que, il y aura une autre expression qu'on trouvera un peu plus loin, dans le sang, il y a l'âme. Alors ça, c'est une représentation qu'on n'a pas immédiatement, nous.
Alors je vous propose que nous méditions sur ce que vous venez de nous transmettre par une pause musicale. Nous venons d'écouter une nouvelle cantate de Buxtehude. Et donc vous nous avez, juste avant cet extrait musical, cité deux passages de la Bible où il est question de l'âme dans son contexte. Alors pouvez-vous nous éclairer sur cet extrait du Deutéronome et du Lévitique?
Oui, parce qu'il nous enseigne un peu sur la conception même que les anciens Hébreux se faisaient de l'âme. Et il y a cette expression... C'est néanmoins, donc il s'agit d'un rituel des sacrifices que nous n'examinons pas maintenant, mais l'allusion à l'âme justement. Néanmoins, suivant tout désir de ton âme. Rak bekol rawat nafshecha. Selon, ça veut dire quoi? Si tu suis le désir de ton âme, tu peux manger de la chair. Parce que est-ce qu'il y a un interdit? Pourquoi ça? N'entrons pas dans ces détails qui ne sont pas notre objet aujourd'hui. Mais ça signifie que l'âme est le lieu du désir. Donc c'est un point important pour nous. Hein? Donc, quand on entend âme, il faut entendre ce qui exprime ou ce qui est le moteur, c'est le désir. Parce que l'âme, c'est ce qui anime, qui nous donne une certaine motricité, comme dirait Aristote, hein? qui nous meut. Quelles sont tes motivations? Alors même en psychologie cognitiviste, on parle la motivation de l'homme. Qu'est-ce qui te meut? Alors, quelles sont tes pulsions, si on veut? C'est un autre vocabulaire. Mais l'âme est fondamentalement le lieu du désir. Or, nous n'avons pas encore rencontré cette notion de désir. Parce que, apparemment, en tout cas, c'est pas là que on va voir dans les végétaux du désir. Il n'y a rien qui le manifeste. Mais, dans les âmes vivantes, dès qu'il y a de l'âme vivante, comme on va voir dans les poissons et dans les oiseaux, il y a du désir. Alors, c'est pas évident non plus. Pourquoi ? Parce qu'il faut aller voir ce que symbolise le poisson et l'oiseau pour pouvoir comprendre que ça raconte quelque chose sur le désir de l'âme, sur ce qu'est l'âme en nous, qui est la forme même de la motivation dans la vie. Qu'est-ce qui nous meut dans la vie ? C'est quelque chose de très inconscient. Et comme dit saint Thomas, c'est très difficile de parler de l'âme. C'est une nature, c'est quelque chose d'obscur à notre esprit. Oui, mais c'est obscur, mais on peut recevoir quelques lumières. Et la deuxième citation que je faisais, c'était, qui explique en partie d'ailleurs l'interdit sur le sang dans la nourriture dans la Bible, qui va jusqu'à Jésus, qui scandalise tout le monde en disant « Prenez, buvez, ceci est mon sang. » C'est l'interdit maxi, c'est de boire le sang d'une chair. Et là, en plus, le sang d'un homme. C'est absolument impensable. Donc, mais là aussi, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Et simplement, pourquoi l'âme est liée au sang ? Eh bien, pour une chose très précise. Attention, c'est dans l'ordre du signe. Depuis le quatrième jour, on est rentré dans l'ordre du signe. Ah bon ? Ça veut dire que je dois regarder le sang comme l'image de la chose. Le sang, c'est où ? C'est partout. Une cellule qui n'est plus irriguée par le sang, elle meurt. Voilà. Le sang, le sang qui n'arrive plus au cerveau, AVC, c'est fini. Enfin, ça va très mal, en tout cas. Le sang qui n'arrive plus dans les doigts de pied, gangrène. Le sang irrigue, nous baignons dans notre sang. Donc, si on assimile l'âme au sang, ça veut dire que tout notre corps est le lieu de la vie et de l'âme. Autrement dit, on est en train de poser une chose qui atténue ou efface pratiquement la dualité corps-âme. Et vous me direz, mais à la mort. Et justement, la mort est un scandale pur pour l'homme, pas pour les animaux, on verra pourquoi. C'est un scandale pur. Pourquoi ? Parce qu'à l'âme, tout le monde sait, ou croit savoir en tout cas, parce que c'est difficile d'en parler, la mort, ça consiste justement à dissocier l'âme du corps. Donc la vie, c'est que le corps et l'âme soient totalement unis comme le sang à la chair. Donc si nous figurons des choses pour l'âme qui soient totalement déconnectées de notre corps, mais c'est une erreur massive. Vous voyez ? Ah, maintenant on va se préoccuper des affaires de l'âme. Et on va oublier les affaires du corps. Mais c'est complètement idiot. Et la Bible ne dit jamais cela. Ça, c'est dans la philosophie grecque qu'on va trouver des choses comme ça. C'est les païens qui séparent l'âme du corps. Alors, il se trouve que peut-être beaucoup de chrétiens sont un petit peu païens sur les bords, mais enfin, bon, c'est leur affaire. Mais moi, je dis que dans la Bible, on ne trouve pas ça. Donc, le sang, Eric, pourquoi le cœur est au centre du corps ? Le cœur est ce qu'il y a de plus important, parce que sans le cœur, le sang n'est pas envoyé partout. C'est la pompe, c'est un muscle, le cœur. Pompe aspirante et refoulante. C'est capital. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre au centre de l'âme, qui est le sang ? Ben, on va utiliser l'image du cœur. Eh bien, si on lit bien l'écriture, qu'est-ce que c'est ? C'est l'intelligence. Nous, on met les sentiments. Mais les sentiments, c'est très bien que c'est dans les tripes, c'est pas dans le cœur. Hein. Et les hormones, ça fonctionne partout aussi. Mais, vous voyez, les lieux symboliques du corps vont se déterminer ainsi. Donc, qu'est-ce qui est central et qui irrigue absolument toute la vie du désir d'exister ? Parce qu'on est avec le désir d'être. Pourquoi on désire d'être ? Alors, il y a des gens assez malades pour ne plus désirer d'exister, en disant, moi, je suis dans la vie, mais je n'ai pas demandé à venir, et qui pleurniche. Mais ils sont très malades, il faut avoir compassion, mais il faut qu'ils se soignent. Pourquoi ? Parce que le don même de la vie va avec le désir de vivre. Et la plupart des gens, quand même, ont le désir de vivre, et parfois, jusqu'au bout, ils vont mourir, ils disent, non, docteur, encore une minute, et tout. Ils veulent pas qu'on abrège leur jour, c'est pas vrai. Parce que le désir de la vie est un désir intimement connexe de la vie. La vie, c'est le désir de vivre. Si on n'a pas le désir de vivre, on est déjà mort, en fait, on n'a plus d'âme. C'est simple. Vous voyez, c'est extrêmement puissant, ça. Alors.
Donc les animaux ont ce désir, poissons et les oiseaux.
Mais vous tapez sur une grenouille, elle s'enfuit, elle se laisse pas tuer, elle saute. N'importe quel vivant réagit et essaie de sauver sa peau. Mais même un insecte. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire de la vie? Une vie d'insecte, vous rendez compte? Hein? Mais dès qu'il y a un danger, il s'enfuit. Mais pourquoi il s'enfuit? C'est fondamental le désir de la vie. Eh bien, vous voyez pas ça chez les végétaux. Et pourtant, ils sont vivants aussi. Mais c'est une forme de vie d'un autre type, vous voyez. Alors, en biologie, on fait pas trop les différences, parce que c'est la même chimie, on est d'accord. Oui, mais voyez que c'est puissamment autre chose, là, le désir de vie.
Est-ce que nous prendrions une seconde pause musicale maintenant, Jean-François, si vous voulez bien?
Nous le permettons.
Merci. Je vous poserai bien cette question, suite à ce que vous venez de développer avant l'extrait musical. Donc nous voyons que la divinité parle aux poissons, multipliez-vous, poissons, oiseaux. Donc cette parole qui est adressée directement donc, à ces âmes vivantes, alors qu'est-ce qu'elle signifie? Ça veut dire que ces âmes vivantes peuvent entendre, comprendre, obéir, je ne sais pas, en tout cas entrer dans une relation?
Oui, exactement ça. Et nous entendons là que qu'est-ce qui entend la parole divine, le désir de vie qui est en nous. C'est effectivement, donc dès qu'il y a âme vivante, il y a la capacité d'entendre la parole divine. Cette parole n'est pas quelconque d'ailleurs, elle est précisément une figure du désir fructifié. C'est pas simplement la survie, vous voyez. Bon, on va se mettre dans un coin et puis on va attendre que de mourir, quoi. Ça. Non. Fructifier, multiplier, emplissez les eaux. Conquête. Quelle est la figure du désir? La conquête militaire. C'est le désir d'accroître son territoire. C'est un peu brutal, d'accord? C'est après la chute, d'accord? Mais c'est la figure même. L'armée, c'est ce qui permet de conquérir ou de défendre son territoire.
Ça nous rappelle d'un
ça, c'est très de vue, animal, hein, mais...
D'un point de vue plus positif, on peut penser aussi à la surabondance du troisième jour.
Bien sûr, alors, c'est un autre chapitre encore, c'est que la surabondance que nous figuraient les cycles végétaux se retrouve évidemment et sous un nouveau mode, puisque c'est pas simplement multiplier et abonder, et c'est le mot lui-même est là, même le reptile abonde dans les eaux. Donc, on voit que ça, c'était déjà avec la semence, mais il y a fructifier. C'est-à-dire qu'il y a à produire quelque chose de différent. C'est pas simplement multiplier. Alors fructifier, c'est pas multiplier. Multiplier, ça donne l'abondance, oui. Donc, vous contentez pas d'exister, il faut se reproduire. Et, mais pas se reproduire n'importe comment, il y a la fructification. Et on entend déjà que ce qui est dit à l'âme animale ici va être dit à l'homme. Mais pas tout à fait de la même façon non plus. On le verra le sixième jour. Parce qu'il faut dominer le poisson de la mer. Oui, il faut avoir compris ce que c'est que le poisson de la mer. Il ne s'agit pas simplement d'aller à la pêche hein, et de faire des conserves. Hein. Ce n'est pas ça, dominer le poisson de la mer et l'oiseau du ciel. Non. Alors, ce désir puissant, la vie est un désir. C'est pas simplement un processus chimique, biologique. Alors, c'est au niveau de ce désir que l'intelligence, déjà l'écoute, la réception, la capacité de recevoir la parole divine est là. Donc ça veut dire que c'est immanent à l'âme animale d'entendre l'intentionnalité de la vie. Parce que cette intentionnalité de la vie, c'est une parole divine en nous. Bien sûr qu'elle n'est pas explicitée, mais comme on a vu avec le récit de Jacob, quand on s'en rend compte, on l'explicite. Oui, mais là, on est devenu un homme complet, c'est-à-dire qu'on sait le dire, on ne le vit pas inconsciemment. On sait le dire et on va évidemment dire merci. Parce que on va se retrouver sujet de son désir au lieu d'en être l'objet. Parce que l'âme animale est en quelque sorte l'objet de son propre désir. C'est une donnée qu'il ne peut pas maîtriser. Et d'ailleurs, aucun animal ne se suicide. Alors, il y a des cas spéciaux, bon. Mais c'est pas évident non plus. Mais disons la décision intérieure de dire, ça suffit, je ne veux plus vivre. Ça, c'est pas animal. Ça, c'est humain déchu. C'est pas la même chose. Mais c'est vraiment proprement humain. Bon. Alors, nous avons quelque chose de tout à fait nouveau aussi, c'est que on a vu dans la reproduction des végétaux qu'on avait une figure de l'automate. Ça se reproduit automatiquement. Autrement dit, il n'y a pas besoin de décision. Mais, et à cause de la fixité des végétaux, en gros, hein, il n'y a pas de motricité chez les végétaux. Et on voit apparaître, avec le poisson et les oiseaux, la motricité dans l'eau et dans l'air. C'est-à-dire de pouvoir s'y mouvoir et de pouvoir y recevoir, au niveau psychique, des motivations. Donc, le poisson et l'oiseau vont nous enseigner quelque chose sur la motivation psychique cachée, comme le poisson est caché au fond des eaux, et la motivation spirituelle de l'air, là, de ce qui vole, c'est pour ça qu'on figure les anges comme des oiseaux, mais parce que c'est spirituel, simplement. Hein, ça se déplace, semble-t-il, avec une très grande liberté, enfin, etc. Hein, donc, quelles sont les motivations à ce niveau-là? Donc, on est en train de mettre en place une structure d'un sens des choses cachées et d'un sens des choses révélées. Parce que le poisson, qui a une abondance colossale, même si on arrive à faire des excès, nous aussi, dans la pêche, par exemple, mais ça figure la surabondance. Donc, la surabondance est toujours le signal qu'on peut en prélever.
Et puis surtout caché dans le sens où les poissons sont au fond de l'eau, on ne les voit pas, il faut bien les extraire de leur milieu.
Il faut les extraire de leur milieu pour pouvoir les faire paraître, là aussi pour pouvoir prendre conscience de quoi il s'agit. On va pêcher dans les profondeurs. D'ailleurs, l'image même en psychanalyse, c'est ça, d'aller dans les profondeurs. Et pourquoi les profondeurs? Les profondeurs, c'est les profondeurs de l'eau, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on trouve dans l'eau? Les monstres marins, les taninimes et les poissons. En fait, on trouve deux choses qu'on va retrouver dans les évangiles d'ailleurs, c'est-à-dire la multitude des poissons et un certain nombre de gros poissons. Et eux, on peut même les dénombrer, comme on voit dans la pêche miraculeuse après la résurrection de Jésus.
Les deux pêches miraculeuses, donc.
Les deux.
L'abondance, c'est dans la première, et puis ce que vous nous présentez, c'est la seconde pêche après la résurrection.
Oui, alors il y a aussi abondance, mais il y a
avec des
en
poissons
plus,
qualifiés gros.
Voilà, il y a des gros poissons, et il y en a 153. Mmh. Donc, c'est-à-dire, il y a un nombre spécifique. Les autres, on ne les compte pas, c'est surabondant. Mmh. Alors, là, comme vous dites, dans la première pêche miraculeuse, c'est essentiellement la surabondance qu'on veut montrer. Et dans la deuxième, bien sûr qu'il y a la surabondance, mais attention, il y a quelque chose qui n'est pas abondant, qui est nombrable et qui ne peut se faire qu'après la résurrection. Mmh. Donc, laissons le mystère. Bon. Mais n'empêche que ce monde du poisson, c'est vraiment de la vie, mais cachée. Donc c'est tout ce qui est inconscient. Ah ben inconscient, ça veut dire qu'on n'en a pas conscience. Alors comment on fait ? Il faut partir à la pêche, si on veut les voir. Si on veut en prendre conscience, en prendre connaissance. Les poissons ne se pêchent pas eux-mêmes. Donc il va falloir attendre le sixième jour. Là, il n'est pas question de pêche, maintenant. Il est question des poissons. Mais on nous en parle parce que ça va être le fond sur lequel l'homme va pouvoir agir. Et qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Il va pouvoir pêcher, justement. Pour pêcher, il faut construire des filets.
Il y a une parabole.
Il y a une parabole qui s'appelle la parabole du filet. Voilà. Il ramasse de tout, parce qu'on n'y voit rien. Hein ? Puis après, on trie. Et ça, pour résumer, c'est le travail de la raison. Et qu'est-ce que la raison doit aller chercher ? Le sens des choses. Le sens des choses est caché. Le sens du récit mythique est caché. Et il y a beaucoup de choses cachées dans le monde. Le monde lui-même, en hébreu, s'appelle Olam. On le traduit par éternité, parfois, par monde. Mais quand on voit la racine, ça veut dire ce qui est caché. Le monde lui-même. Oui, mais madame, je vois les montagnes, les oiseaux, je vois les tables. Oui, mais ce monde, si je me contente de le voir sans en faire un signe,
ça reste voilé.
Ça reste voilé. C'est avoir des yeux pour voir et ne point voir, comme dit Isaïe. C'est-à-dire, on croit voir la réalité, on n'en voit qu'une partie, qui est importante, la partie sensible, avec laquelle on va faire des sciences, on va l'utiliser pour notre vie ici-bas. Oui, mais il y a toute une autre partie sur ce que ça signifie. Le poisson symbolise ça. Ça demande un travail colossal, parce que c'est caché. Et les oiseaux, eh bien, c'est le symétrique, en quelque sorte, dans l'air. Donc, il s'agit aussi de quelque chose qui est difficile à attraper. Hein, les oiseaux, il faut aussi des filets, d'ailleurs, hein, pour les attraper. Ou des flèches, bon. Mais, et ça va signifier les inspirations du monde des esprits. Alors, est-ce que le monde des esprits existe ? Eh bien, il y a beaucoup de gens qui y croient, plus ou moins, de façon plus ou moins éclairée d'ailleurs. Alors, bien sûr que dans l'Écriture, en tout cas, c'est une certitude, il y a un monde angélique et démoniaque, parce que dans les esprits, il y a les deux. Donc, il faut faire très attention. Et il y a des paraboles de Jésus pour nous dire, par exemple, on sème du grain, les oiseaux viennent et le dévorent. Interprétation, celui qui ne comprend pas la parole, parce qu'elle est cachée, qu'il faut chercher son sens, celui qui ne la comprend pas, le diable vient et l'arrache de son cœur. Donc il n'en a même plus mémoire. Il faut comprendre, sinon ça ne peut pas s'enraciner.
Mais vous avez aussi l'arbre dans lequel les oiseaux font leur nid. Dans
voilà, et là ce sont les anges. Donc les oiseaux figurent tantôt les démons, tantôt les anges. Les démons et les anges, c'est la même espèce, en fait, le même genre.
Oui. Hein,
ce sont les esprits, et les esprits qui guident le nôtre. Mais c'est inconscient, là aussi.
Caché.
C'est caché que les esprits guident nos... nous, les oiseaux, ça n'a rien à voir, on n'en a rien à faire. Bon, c'est joli, bon, très bien. On en met quelques-uns en cage, bon. Mais en gros, ça ne nous préoccupe pas.
Donc, pour comprendre, l'inspiration nous permettrait de faire une bonne pêche. C'est ça que vous...
Entre autres. Et surtout, si on veut atteindre le sens complet, il faut atteindre le sens et l'inspiration. Autrement dit, on ne peut pas délier, il faut les distinguer, il faut distinguer le sens de l'inspiration. Comme on a distingué les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Qu'est-ce que, dans le sens que j'établis, relève de ma raison pure ou de ma raison inspirée. Et on est beaucoup plus inspiré qu'on ne le croit. Simplement, c'est pas toujours par les bons anges. Et donc, il se trouve que dans notre travail d'interprétation, on peut être guidé inconsciemment, alors par des maladies psychiques, comme dirait la psychanalyse, hein, par un complexe quelconque, ou par quelques mauvais esprits. Hein. Par exemple, je peux interpréter les actes de quelqu'un, c'est un acte, il me faut une certaine inspiration, alors une intuition, on dira en psychologie, mais oui, mais par quoi je suis guidé intérieurement ? Par mes propres maladies psychiques ou par des démons ? En général, on n'en sait strictement rien. Oui. Mais ce qui est en place, c'est cette structure qui va permettre à l'homme de paraître. Alors, là, il est presque complet.
Ce que vous nous disiez sur l'âme comme le lieu du désir, est-ce que l'âme est aussi le lieu de la pensée, de la raison ?
Oui, oui. L'âme, c'est le lieu... quelle est l'activité de l'âme ? Penser. Il se trouve que un grand mystique comme Saint Jean de la Croix disait « Une seule pensée de l'homme vaut mieux que tout l'univers, c'est pourquoi Dieu seul en est digne. » Alors je répète parce que c'est étonnant, mais c'est Saint Jean de la Croix, hein, vers 1580. Une seule pensée de l'homme, mais une pensée, pas une association d'idées quelconque en bavardant comme ça. Ça, c'est pas de la pensée, c'est du bavardage. On est dans la répétition du même de ce qu'on a entendu. Une pensée, il y a un acte volontaire qui doit être issu du désir profond, qui cherche le sens et avec l'inspiration. Il y a tout ça dans la pensée.
Mais ça résume assez bien tout ce que vous venez de développer en tout cas. Mais de fait, on comprend.
On comprend. Mmh. Alors là, on arrive à la pensée. Mmh. Alors, une seule pensée de l'homme vaut mieux que tout l'univers. Mais oui, parce que par ma pensée, je comprends l'univers et l'univers n'en sait rien. Ça, c'est Blaise Pascal.
On peut penser à la pensée, justement, de Jacob.
Et toute la morale consiste à bien penser. Mmh. C'est Blaise Pascal aussi, ça. Mmh. Un des plus grands génies que je connaisse. Mmh. Hein? Donc, vous voyez, le cinquième jour nous met en présence des structures de l'âme dont le propre est le désir du sens et de l'inspiration. Évidemment, il va falloir une régulation. Pourquoi ? Parce que là, on a des puissances autonomes. Parce que l'âme vivante est autonome. Les végétaux n'étaient pas autonomes. Ils n'avaient pas la liberté de se mouvoir. La liberté de se mouvoir des poissons et des oiseaux, dans l'eau et dans l'air, avec une facilité étonnante, les uns et les autres d'ailleurs, hein, nous montre ce que c'est que l'autonomie du mouvement. Oui, mais l'autonomie du mouvement est une image de l'autonomie des puissances psychiques dans l'homme. Donc notre âme animale, notre vie psychique, a son autonomie. Alors, elle peut rester au niveau inconscient, la vivre comme une bête, quoi. Mais ça marche. Et même, ça entend déjà une parole divine. Dans son propre désir, inconscient. Mais tout ça reste inconscient. L'éveil de l'homme, ça va être le sixième jour. L'homme parfait, c'est le sixième jour. Ce qu'on verra la prochaine fois.
Merci beaucoup, Jean-François. Et donc, nous arrivons. Nous sommes à la frontière du sixième jour que nous découvrirons lors de notre prochaine émission. À bientôt.
À bientôt, Père Éric.